La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Ce soir, édition spéciale. C'est la première des Mardis de l'Europe. Une nouvelle forme de la matinale que vous retrouverez, c'est dans le titre, chaque mardi, et pendant laquelle vos bénévoles de rêve, d'amour et de ciel bleu vous parleront des élections européennes du 9 juin prochain. Au programme de ces mardis, deux partis politiques ayant déposé une liste aux élections sont invités sur notre plateau pour être interrogés sur l'un des pans de leur programme. Et pour inaugurer ces émissions spéciales, nos deux premiers partis avec leurs deux têtes de liste seront avec nous. En premier, nous recevrons Thierry-Paul Valette, tête de liste du parti qu'il a fondé, le parti Europe Équitable, avec la liste Union pour une Europe Arc-en-Ciel. Se classant plutôt au centre de l'échiquier politique, le programme de cet ancien gilet jaune pour ces élections peut se résumer en cinq missions principales que nous avons trouvées sur le site du parti. L'accélération du processus démocratique européen, le maintien d'une identité européenne forte, le rétablissement de la confiance en l'Union européenne, l'amélioration dans la gestion des flux migratoires et l'amélioration de la coopération sécuritaire avec les États membres. En 2019, le parti n'avait pas présenté de liste, ayant été créé seulement en octobre 2023. Puis, nous recevrons Nathalie Arthaud, tête de liste et porte-parole du parti qu'on ne présente plus, Lutte Ouvrière. Parti trotskiste classé à l'extrême gauche, la liste Lutte Ouvrière défendra les conditions d'existence des travailleurs et des travailleuses ainsi que le renversement de la domination de la classe capitaliste. En 2019, la liste Lutte Ouvrière avait récolté 0,78% des voix et donc aucun siège au Parlement européen. C'était en 1999 que leur liste menée par Arlette Laguiller avait pour la dernière et seule fois recueilli plus de 5% des voix, amenant ainsi trois députés LO au Parlement européen. Ces deux partis ne débattront pas, mais répondront l'un après l'autre aux questions de nos superbes bénévoles sur une partie précise de leur programme, de leur vision de l'Europe et de la France au sein de l'Union. Alors restez accrochés à vos sièges, la première des Mardis de l'Europe sur le 93.9, ça commence maintenant. Et donc aujourd'hui, en première partie d'émission, comme je l'ai dit, nous recevrons Thierry-Paul Valette du parti Europe Équitable et Nathalie Arthaud du parti Lutte Ouvrière. Ensuite, en deuxième partie d'émission, Radio Phoenix, qui est en fait Radio Campus Caen, nous parlera de genre et des identités plurielles au travers d'un témoignage. Pour les chroniques de ce soir, Justine nous présentera sa lettre à l'Europe et Noah se questionnera sur la création d'identités individuelles et collectives.
La matinale de 19h.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et c'est toujours la première des Mardis de l'Europe de la matinale. Donc on commence notre émission par la première interview politique avec Thierry-Paul Valette, tête de liste du parti Europe Équitable, interrogé ce soir par Agathe et Joséphine. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Merci
bonsoir Agathe,
à vous de venir.
Bonsoir monsieur. Joséphine.
Bonsoir. Alors ce soir, on vous reçoit pour parler de politique intérieure comme les droits des femmes, l'immigration et le terrorisme, mais aussi pour parler de votre programme avec une Europe équitable. D'ailleurs, dans une lettre, vous écrivez que l'Union européenne impose ses décisions malgré les miasmes des États. Pourtant, une grande partie de votre programme insiste sur la faiblesse législative de l'Union européenne, ce qui vous a amené à une proposition de constitution. Cela ne sous-tendrait-il pas, à votre avis, un certain paradoxe ?
Non, il n'y a aucun paradoxe. La Constitution, elle avait déjà été pensée, souhaitée, et puis finalement, ça a été un échec et un rejet, parce que le calendrier à l'époque n'était pas le bon, parce qu'il y a déjà, et c'est toujours le cas, une méconnaissance de l'Europe. Il y a un désintérêt de l'Europe, il y a un désamour de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'elle est mal connue, parce qu'elle manque de clarté, elle manque de démocratie, et puis on a aussi une Europe qui sanctionne. Et j'ai envie de dire que malheureusement, la France, contrairement à d'autres pays des États membres, et un peu trop le bon élève de l'Europe, et finalement les politiques qui se mettent en place vont plus vite que la bonne volonté, j'ai envie de dire, des acteurs. On l'a vu dans la crise des agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas des gens qui sont dans le rejet de l'Europe, ce n'est pas des gens qui sont dans le rejet du politique, bien au contraire, ils sont très carrés, ils font leur métier, ils appliquent les normes qu'on leur impose de manière très militaire. Seulement, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas encouragés, les choses, elles vont trop vite, on leur en demande de trop. Voilà, c'est aussi une des problématiques de l'Europe. Et partant de là, période de crise, période où il y a les fortes montées des populismes, on va plutôt vers les extrêmes, extrême droite et extrême gauche qui se rejoignent, et puis on est dans le rejet de l'Europe.
En quoi une constitution aiderait une meilleure entente ? Vous parlez d'harmoniser les législations.
Bien sûr.
En quoi cela aiderait les États à avoir plus de dialogue avec l'Union européenne.
Pour une cohérence européenne et la cohérence des États membres. Et j'ai envie de dire que avant de toujours penser à normes, toujours plus de normes, toujours plus de législatives, de lois, faudrait essayer de penser plutôt le socle européen. Je veux dire, on parlait d'une constitution européenne, mais quand on pense à la France, la constitution, c'est un socle, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas parce qu'on parle de constitution européenne que ça veut dire que la France ou les États membres vont perdre leur indépendance totale. Pas
et
du
ça,
tout.
Ça après, faut la d'accord voix des sur... agriculteurs à être entendue pour vous. Par exemple, vous avez pris l'exemple des agriculteurs. Pour vous, alors, la voix, ça n'amènerait pas une plus grande échelle qui perdrait la voix des agriculteurs.
Alors, l'agriculture
j'ai
en
pris
Europe.
Cet exemple-là.
Non, mais bien évidemment, parce qu'en plus, c'est un fait d'actualité oui. et la crise des agriculteurs, elle n'est toujours pas réglée. Oui. Mais la crise des agriculteurs, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'elle dure. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le mouvement des Gilets jaunes. C'est une crise qui vient de loin. Mais là, malheureusement, la crise des agriculteurs, ce n'est pas qu'une problématique de l'Union européenne. C'est une crise et une problématique parmi tant d'autres. Néanmoins, à côté de ça, il faut quand même renforcer l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je suis europhile, j'y crois, il y a du bon. Aujourd'hui, avec la géopolitique, la géoéconomie, la manière dont le monde fonctionne, c'est encore beaucoup plus nécessaire qu'à l'époque des pères fondateurs. Et la Constitution, c'est un socle, pour moi, qui est vraiment important et qui est inévitable. Voilà, donc il faudra à un moment donné aussi se pencher sur la question, sans pour autant que les pays, et c'est ça qui fait peur aux gens aussi, perdent sa souveraineté quelle qu'elle soit.
Vous avez donc été la tête des Gilets jaunes, mais bien sûr vous n'avez pas été que ça, comme vous le disiez. Est-ce que vos propositions d'instaurer un RIC, donc un référendum d'initiative citoyenne, et d'interdire l'utilisation du LBD à tous les États membres, pour vous, sont-ils des vestiges de votre engagement à la tête des Gilets jaunes?
Quand on parle de LBD, c'est pas un vestige. Quoi qu'il est mutilé, quand on voit leurs yeux, leurs membres qui sont manquants, c'est pas des vestiges. Je veux dire, la France, en la matière, elle a toujours pas évolué. Pourtant, c'est considéré comme une arme de guerre. C'est décrié par les plus grandes instances internationales. Et la France, en la matière, n'a toujours pas évolué et n'avance pas. Et dans un pays, en Europe, justement, qui est importante pour la stabilité et la paix dans le monde, on peut pas avoir des pays comme la France justement qui sont encore à utiliser le LBD avec toutes les problématiques que ça met en place. Donc c'est quand vous parlez de vestiges, non, on n'est pas dans voilà, oui, c'est j'ai envie de dire que c'est eux qui mettent en place des armes voilà qui sont létales et qui sont contraires aux droits fondamentaux de l'homme.
Votre expérience de Gilets jaunes vous a formé à la politique pour vous?
Non, pas du tout. La politique, c'est une conscience citoyenne avant tout, c'est une évolution, ça peut être aussi une logique des choses. Moi, j'ai commencé mes engagements militants et citoyens avec les droits de l'homme, les droits humains. J'avais monté un comité contre la famine au Yémen, j'ai fait de la géopolitique, j'ai fait beaucoup de choses avant les Gilets jaunes. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes, crise sociale, crise politique, et je me suis engagé au travers des Gilets jaunes. Mais finalement, faire de la politique, c'est pas non plus qu'être automatiquement dans un parti et avoir automatiquement des idées de droite ou de gauche. J'ai envie de dire que la politique, tout le monde en fait, c'est avoir un avis aussi sur la société. Et après, comment on s'engage, comment on transforme on peut être engagé en politique, mais sur le terrain, et vouloir s'engager après au niveau des idées. Bon, c'est vrai que moi, sur le terrain, au bout de 5-6 ans passés sur le terrain, et notamment avec les Gilets jaunes, qui a été une expérience mais formidable, riche, humaine, qui a été aussi très dure, je le dis pas, ça a apporté beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi la relève sur le terrain, on l'a vu avec la réforme des retraites. Ouais. Les jeunes sont là, les jeunes sont impliqués, les jeunes ne sont ni à la ramasse, contrairement à ce qu'on peut penser, à vouloir les stigmatiser. Et puis.
Puis vous prenez du coup cette relève avec Europe Équitable,
oui.
Et vous avez donc avec cette liste qui s'appelle Union pour une Europe arc-en-ciel.
Oui.
Du coup, qu'est-ce que c'est une Europe arc-en-ciel? Puisque c'est un peu mystérieux et poétique à la fois comme appellation.
Ah oui, ben la poésie, ça en manque. Et beaucoup de grands politiques, souvent, font de la poésie, mais ils n'en parlent pas. Voilà, ils font à part Mais voilà, alors l'Union pour une Europe arc-en-ciel, arc-en-ciel, c'est en référence aussi à Nelson Mandela.
Mm-hmm.
Hein, Nelson Mandela, c'était oui. L'État arc-en-ciel. Et puis moi, je suis un militant antiraciste, et aujourd'hui on le voit bien, on est contre le migrant, on est contre l'étranger, on a peur de l'autre, on stigmatise les gens par rapport à une couleur de peau, par rapport à un faciès, par rapport à un nom, par rapport à une religion. C'est terrible, c'est que ça. les chaînes de télé commencent à être épinglées par l'ARCOM et pas que, parce qu'on est dans les prises des positions. On voit le Front National qui monte en puissance, le populisme. On a vu la loi asile-immigration qui a été retoquée en grande partie quand même, enfin, je veux dire, qui était très demandée. Donc c'est inquiétant. Et l'Europe, c'est pas ça. Au contraire, l'Europe, c'est culturel, l'Europe, c'est une richesse et l'Europe, c'est l'échange. Il faut pas avoir peur de l'autre.
Oui, vous avez beaucoup de. Une grande partie se mise sur les migrants, on va en parler.
Oui.
Mais arc-en-ciel aussi, on pense à d'autres minorités qui ne sont pas du tout abordées dans votre programme,
oui, LGBT,
notamment
par exemple,
LGBT, ou aussi la question des personnes sexisées.
Bien sûr, aussi. Alors, je termine juste quelques instants.
Oui, pardon.
Non, il n'y a pas de mal. Arc-en-ciel aussi, parce qu'on est et on bascule, et c'est Emmanuel Vasse qui en a parlé le premier il y a quelques années, vers une apartheidisation de la société. Et on le voit notamment dans les banlieues et pas que. Et ça, c'est une réalité sociale, même si on n'en parle pas réellement et qu'on n'en fait pas écho. Après, maintenant, quand on pense à arc-en-ciel, j'ai envie de dire, c'est pas volontaire, mais oui, il y a la condition LGBT et puis la lutte contre l'homophobie. Mais nous, à Europe Équitable, c'est pas notre fondement premier. C'est comme l'écologie, c'est pas notre fondement premier. Même si l'écologie est importante, même si la lutte contre l'homophobie est importante, si c'est un clin d'œil pour la cause LGBT, pour les transgenres et la tolérance envers les autres et leur manière dont ils se définissent d'un point de vue sexuel ou pas, j'ai envie de dire, peu importe et tant mieux, parce qu'il faut avancer aussi sur la question. On est en 2024 quand même. On est en 2024.
Une des missions que votre liste porte pour cette élection est la gestion des flux migratoires avec une procédure pour un retour aux frontières rapide, comme il est indiqué dans votre programme. Pouvez-vous nous éclairer sur cette possible procédure ?
Oui, alors quand je dis un retour aux frontières rapides, faut pas l'interpréter dans le sens être contre les migrants. Moi, je suis pour les migrants, je défends les migrants. Ce sont des vies humaines, ce sont des tragédies. Quand on voit des centaines et des centaines de familles, d'enfants, de femmes qui disparaissent, parce que la Méditerranée, c'est devenu un cimetière et un tombeau à ciel ouvert, c'est triste. L'immigration, c'est quelque chose de positif. L'immigration, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. L'immigration, ça rapporte aussi. Mais on a toujours mal. Malheureusement, l'immigration qui, dans les faits divers, est toujours mis en avant par rapport au QTF, par exemple, par rapport à des migrants qui pourraient tuer ou violer. Ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas besoin d'être migrant pour faire cela. Et ça ne représente pas toute une partie de la population pour autant. Maintenant, c'est vrai que la gauche, et pendant longtemps, et je le regrette, a toujours laissé cette question-là au Front National. Et c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, avec toute la géoéconomie et politique qui change, c'est vrai que les vagues migratoires, elles seront de plus en plus importantes. Et les migrants, ils viennent à juste titre, bien évidemment, mais il faut savoir aussi encadrer les choses. Il faut savoir les accueillir de manière digne, parce que quand ils viennent et qu'ils dorment dans les rues de Paris, c'est pas normal. Il y a des femmes, il y a des enfants. Voilà. Donc il faut savoir les accompagner. Et ça, c'est aussi la coopération avec les États membres, et c'est aussi la coopération entre l'Europe et, par exemple, entre l'Afrique et entre d'autres pays. Alors après, reconduire la frontière, quand on est dans des cas de... J'ai eu le mot tout à l'heure.
Au QTF.
C'est vrai que malheureusement, si on traîne à appliquer les décisions de justice, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ça laisse le champ ouvert au Front National et à toutes les extrêmes. Donc autant être rapide, efficace de ce côté-là, et aussi être efficace de l'autre côté dans l'accueil digne des migrants. Voilà. Mmh. Et pas non plus interdire des associations comme Lampedusa de laisser les bateaux à quai, de ne pas pouvoir intervenir et laisser les gens mourir. Mmh. Ça, c'est hors de question. Mais ce qu'on a voulu faire croire à la population, ce qu'on fait croire aux gens, c'est que finalement, c'est une minorité, parce que les vagues migratoires, c'est pas non plus des dizaines et des centaines de millions qui viennent en France ou en Europe, c'est faux. Il y a la migration économique, l'immigration n'est pas toujours clandestine. Nous, on fait croire aux gens que les choses vont mal à cause d'eux, qu'il y a la crise à cause d'eux. Les gens pensent qu'ils se remplissent les poches, qu'on leur donne des cartes de crédit. Ils imaginent des choses complètement fausses sur la condition des migrants à travers l'Union européenne. Mmh. C'est dommage. Donc il faut informer, il faut agir, il faut se mobiliser. Et c'est pour ça que c'est un des 5 points majeurs d'Europe équitable, parce qu'il faut de l'équité. L'équité humaine, c'est important.
Et d'ailleurs, du coup, vous êtes en faveur d'une identité européenne forte. Et dans votre programme, cette identité, elle a l'air notamment de s'appuyer sur la jeunesse. Est-ce que vous pensez que l'Europe, elle néglige ses jeunes? Et notamment, on a vu qu'il y a eu la mise en place de frais d'inscription majorés pour les étudiants étrangers à l'université. Est-ce que ça dépeint un certain... mépris, c'est-à-dire on vous accueille, vous étudiez chez nous, mais vous repartez juste après.
Bah oui, c'est ça. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est une jeunesse Kleenex et des jeunes Kleenex. Et on se dit que bah, finalement, la jeunesse, eh ben, voilà, elle est à côté de la plaque, elle est sur Internet, elle est dans un autre monde, elle n'est pas dans des mêmes réalités. Puis d'un autre côté, on va transmettre toute peur en disant « Ah, mais je ne voudrais pas être jeune dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. » Alors finalement, j'ai envie de dire, la jeunesse, faut avoir confiance en eux. Faut y croire, on a été jeunes. C'est vous qui aurons les clés de la France demain, les clés de l'Europe demain. Donc, il faut vous donner les moyens. Alors oui, c'est vrai qu'il y a parfois une forme, une partie de jeunes qui, eux, ne sont pas toujours enclins à vouloir étudier, à vouloir bouger, se déplacer, intégrer des programmes comme...
Erasmus.
Comme Erasmus. Mais voilà. Mais la jeunesse, elle est multiple et elle a plusieurs visages. Il faut donner la chance à la jeunesse. Et bon, ben, en France, je trouve que ça n'a pas été trop le cas. Mais enfin, pendant la réforme des retraites, je répète, les jeunes le soir, j'étais avec eux dès la Concorde, j'ai envie de dire, chapeau bas, vous avez fait un travail formidable, parce que même les anciens, ils partaient, laissaient tous tomber. C'est les jeunes qui étaient là, et je dis c'est bravo, ça. Je leur tire le chapeau. Ouais. Voilà, et puis l'Europe doit les accompagner aussi, et voilà, de leur donner des facilités financières et pas que.
C'est vrai. Et c'est aussi ce qu'on continue à faire finalement dans cette radio étudiante, c'est les jeunes qui la portons.
Mais c'est ça
donc,
qui est génial.
Merci pour ces derniers mots,
bien
et
sûr.
Merci pour cet entretien. Thierry, Paul Valède, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons ce soir.
C'est déjà pas mal.
On va se quitter sur Gibraltar de Beyrouth. C'était Gibraltar de Beyrouth.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Nathalie Arthaud, tête de liste et porte-parole de Lutte Ouvrière, est à présent avec nous ce soir au studio. Et je suis sûr que vous êtes prête à répondre aux questions d'Hugo et de José-Louis, nos deux charmants bénévoles juste ici. Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Quand vous
bonsoir
voulez, pardon.
Et bonsoir. Alors, vous êtes tête de liste de Lutte Ouvrière et vous répondez aujourd'hui à nos questions. Vous disiez, il n'y a pas longtemps, sur France Info, l'Union Européenne a été créée, conçue, construite par les capitalistes et pour les intérêts des capitalistes, mais exactement comme l'État français. Pourquoi est-ce qu'on continue à voter pour des capitalistes alors ?
Ah non, il ne s'agit pas de voter pour des capitalistes. Si nous présentons, nous, une liste de travailleuses, de travailleurs, de femmes et d'hommes donc, qui sont exploités, qui appartiennent à ceux qui sont opprimés, c'est précisément pour pouvoir nous rassembler pour porter y compris un message révolutionnaire. C'est le sens, vous savez, de toutes mes candidatures, en fait. Hein. Jamais, vous ne m'entendrez dire qu'on peut changer notre sort par les élections. Et le programme que nous défendons dans toutes les élections, c'est un programme de lutte qui est destiné au monde du travail, un programme de lutte pour leurs intérêts, mais aussi pour changer toute la société, parce que nous pensons que c'est une urgence absolue.
Et oui, vous dites, si on veut un avenir qui prend en compte les intérêts du monde du travail, il faut qu'on soit conscient du combat que nous avons à mener. Alors comment est-ce qu'on l'amène, cette guerre contre le grand patronat ?
La lutte de classe, elle est menée tous les jours dans les entreprises. C'est une exploitation féroce, en réalité, qui se traduit par l'écrasement des salaires, mais aussi des cadences, par la précarité, par donc des femmes et des hommes qui sont pressés comme des citrons, hein, et d'autres qui, ensuite, sont tellement cassés par le boulot qu'ils se retrouvent marginalisés, mis sur le côté. Et puis, c'est aussi l'oppression des pays riches sur les pays pauvres. Donc, cette exploitation, elle prend une série de formes et je crois qu'elle pèse sur toute la société. Notre combat, nous, n'est pas seulement un combat catégoriel pour défendre les intérêts des travailleurs, c'est bel et bien un combat pour débarrasser la société de toute oppression. Mais nous pensons que l'oppression fondamentale continue de passer par l'existence de deux classes sociales. Voilà, ceux qui aujourd'hui concentrent les moyens de production et qui sont en capacité, en effet, de faire leurs lois, de décider qui ils embauchent, qu'est-ce qu'ils vont produire, comment, où, voilà, pour leur fric. Et puis de l'autre côté, eh bien, l'écrasante majorité, hein, qui ne possède que leurs bras, leur cerveau, et qui doivent aller les vendre pour gagner leur pain. Voilà. Et c'est cette situation-là, cette société de classe, qu'il faut combattre. Nous ne sommes pas condamnés éternellement à ce système capitaliste d'oppression qui concentre en plus le pouvoir dans les mains de quelques privilégiés qui finalement sont en train de détruire la planète tout entière, qui sont en train de mener, je crois, la société à la barbarie, parce qu'on voit ces guerres, on voit ces crises, on voit comment la société devient de plus en plus inhumaine.
Alors nous parlions de guerre, de classe. Comment vous envisagez, une politique écologique et durable au sein de l'Union européenne ?
Ah, ça ne sera pas au sein de l'Union européenne, ça c'est évident. Là, je pense que c'est une institution, en effet, qui est complètement verrouillée et qui est absolument construite pour ne pas toucher à un cheveu. Hein, des businessmen. C'est quand même clair que, y compris sur l'écologie, hein, l'Union européenne a dû complètement mettre à la benne, j'ai envie de dire, hein, toutes ces belles intentions, y compris sur la fameuse toutes les mesures là, de la ferme à l'assiette. Hein, mm-hmm. Finalement, ils ont quasiment laissé tout tomber, parce que en effet, il y a cette compétitivité, cette guerre économique qu'il faut mener, n'est-ce pas, hein, et il faut que s'aligner toujours sur les plus productifs, sur les plus rentables. Donc on est condamné en raisonnant de cette façon-là. On est condamné. Moi, je pense que nous sommes les écologistes les plus radicaux. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il faut exproprier la grande bourgeoisie, qu'il faut organiser l'économie sur d'autres bases, c'est-à-dire sur des bases collectives, en l'organisant de façon rationnelle, en planifiant. Il n'y a que comme ça qu'on mettra fin à cet immense gâchis qu'est aujourd'hui le marché capitaliste et cette course au profit. Donc moi, je crois que l'idée communiste, c'est-à-dire d'organiser la société et l'économie consciemment, C'est la seule issue aujourd'hui pour répondre à, effectivement au désastre écologique qui est en cours.
Et oui, Nathalie Arthaud, un autre sujet. Quelle position adopterez-vous, députée européenne Lutte Ouvrière, sur le conflit russo-ukrainien ?
Celle que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire de dénoncer cette guerre comme une guerre impérialiste, c'est-à-dire une guerre qui, en fait, met aux prises les Russes, la puissance de russe, aux impérialistes occidentaux. Voilà, ce n'est pas pour nous une guerre qui oppose les Ukrainiens aux Russes. En réalité, il y a une rivalité, un bras de fer depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 91 entre ces deux camps. C'est une, ça me fait penser, vous savez, aux guerres de territoire que se mènent un certain nombre de bandes de dealers. Voilà, et qui en viennent à se battre à coups de Kalachnikov. Voilà, c'est en fait pour moi, c'est ça, c'est une guerre de brigands. Aujourd'hui, l'OTAN est derrière l'OTAN, les États-Unis ou les États européens ne vont pas pour aider les Ukrainiens. Ils y vont pour faire avancer leurs intérêts dans cette région-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a cette guerre aujourd'hui.
Un autre sujet aussi important, quelles sont les principales mesures que vous proposeriez pour venir en aide aux immigrés en Europe ?
Mais nous, nous pensons que la base, ça devrait être la liberté de circulation et d'installation. Nous sommes évidemment pour la régularisation de tous les sans-papiers, mais bien plus que ça. Aujourd'hui, il y a des dizaines et peut-être même des centaines de millions de femmes et d'hommes qui ne peuvent pas vivre là où ils sont nés. Parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des sécheresses, des inondations, parce qu'il y a le dénuement, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a la faim. Eh bien, ces femmes et ces hommes ont besoin de bouger, ils ont besoin de franchir des frontières, ils ont besoin de se déplacer, ils ont besoin, de trouver un endroit pour vivre, voilà, tout simplement. Et je ne serai jamais du côté de ceux qui expliquent que il faut mettre des murs, il faut élever des... dire à ces femmes et ces hommes, restez crever dans l'enfer qu'on vous a fabriqué. Parce que c'est quand même bel et bien ça. Si aujourd'hui ce monde est dans cet état-là, avec des régions pauvres, où il n'y a jamais eu le début d'un développement, même si à chaque fois on nous fait croire que là peut-être que c'est en train de bouger un petit peu, voilà, c'est quand même bel et bien le fruit de cet ordre impérialiste, où les pays riches ont construit leur développement en pillant ces régions-là, en dressant les peuples les uns contre les autres, parce que ça aussi, ils ont su faire. Moi, ce qui se passe en Haïti me frappe aujourd'hui. Parce que s'il y a quand même un endroit qui a été, sur lequel l'impérialisme s'est obstiné et a voulu leur faire payer, finalement, la révolte des esclaves qui a permis de créer le premier État noir, c'est bien, justement, Haïti. Qui a ensuite, en effet, été sans arrêt, boycotté. Puis il y a eu cette fameuse dette, quasiment à vie, à payer. Mais ce qui se passe là-bas est le fruit de toute cette histoire-là.
Mais justement, vous parlez d'immigration, et dans le cadre du pacte sur l'immigration et l'asile qui a été rediscuté il n'y a pas longtemps, que pensez-vous de la mise en place d'une procédure de filtrage aux frontières de l'Union européenne afin d'accélérer les demandes d'asile ?
Mais moi, je dénonce tout ça. De filtrage, qu'est-ce que ça veut dire cette Frontex-là. Combien ça, vous savez, depuis 2014, on estime à 30 000 femmes et hommes, enfants, morts en Méditerranée. C'est cette politique-là, cette politique qui a conduit à cela en réalité. On nous parle des passeurs, etc. Mais pourquoi y a-t-il des passeurs ? Parce qu'encore une fois, ces femmes et ces hommes ne sont pas libres. Donc, nous disons que, voilà, ils font partie, pour nous, du monde du travail. Ce sont des femmes et des hommes qui, en réalité, cherchent à gagner leur vie. Et il faut bien réaliser que, y compris, ça peut nous tomber dessus à nous aussi. Des guerres qui provoquent des exodes, qui provoquent des déplacements de population, on en a connu. Et ça peut aussi revenir. Avec ce qui se passe, tous ces bruits de bottes, bien sûr qu'il faut, il faut avoir cette liberté-là. Donc pour nous, ces femmes et ces hommes, ce sont des travailleuses et des travailleurs. Et nous, notre problème, c'est pas la nationalité, c'est pas le papier, c'est pas l'origine. C'est justement, ils appartiennent à la classe des exploités, à la classe des opprimés, qui ont un combat commun à mener, hein, un combat commun à mener pour s'émanciper de ce système qui les broie.
Nous allons revenir sur l'écologie. On semble qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la préoccupation du moment avec toutes ces guerres et tous ces profits. Voilà. Pourtant, la planète se meurt toujours. Est-ce que vous proposez des actes, des lois concrètes sur, par les députés pour l'écologie ?
Et moi, je vais être directe. Je pense que, encore une fois, ce sont ces dirigeants capitalistes dont il faut se débarrasser. Parce que leur politique à la tête des multinationales, et ce sont quand même les multinationales, hein, c'est quand même Total, c'est quand même Nestlé, c'est quand même Lactalis, c'est les trusts de l'automobile, ce sont quand même ces trusts-là, les trusts donc de l'énergie aussi, qui font la pluie et le beau temps au niveau économique. C'est eux qui tirent et qui font les choix déterminants pour, je dirais, les prochaines décennies. Aujourd'hui, ils sont en train de planifier ça dans leur conseil d'administration. Eux, ils sont en train de planifier. Mais ils ne sont pas en train de planifier d'arrêter les forages de pétrole, d'arrêter les énergies fossiles, etc. Hein? Donc, si on leur laisse les mains libres, ces gens-là, ils continueront de polluer, ils continueront de ravager la planète comme ils l'ont fait.
Est-ce que vous auriez 3 mesures concrètes qu'on pourrait tout de suite mettre en place pour justement les arrêter ?
Il faut les exproprier, leur dire « Vous êtes responsables de la catastrophe, laissez la place. Et le monde du travail, avec les consommateurs, avec l'ensemble de la population, ils doivent, eux, constituer des comités d'administration pour décider de ce qui sera produit, comment, où, en quelle quantité, et d'abord, évidemment, pour répondre aux besoins de tous, parce que c'est ça aussi, notre perspective en tant que communiste, c'est le pouvoir des travailleurs. Voir des travailleurs, c'est cela. Nous disons que, justement, eux, ils auront cette préoccupation-là de produire pour répondre aux besoins. Pas de produire pour accumuler des capitaux. Toujours plus de profits. C'est ça, le capitalisme. C'est pour ça que c'est une société qui ne peut pas tourner rond et qui ne peut pas respecter la planète.
Pardon, et sur ces mots-là, Nathalie Ardaud, on doit mettre fin à l'interview. Merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. Merci Hugo et José-Louis pour ces questions.
Merci Sophia, merci Nathalie.
Nos auditrices et auditeurs finlandais, pardon, excusez-moi, mais on va se mettre « Sintinit surum ya puetu peti my skin » de Mastetitot.
Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka seläs näkymätön. Kiloinen taakka, vaikka edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti, mut syvempää. Pakkasessa lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin, synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksin. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein maallinen pesti, mut syy.
C'était Sintinut Surum Ya Puetu Petit Maskin. Je suis vraiment désolé de ma prononciation. De Most Etitut sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
Rebonjour, rebonsoir à la matinale. Il est 19h37 et 7 secondes. Justine, tu nous présentes ta lettre à l'Europe ?
Eh oui, hello, ciao, bonjour, hola, hoy. Sans surprise, je vous laisse deviner la thématique de la chronique qui est...
L'Europe !
Eh oui, en espérant que nos prochains parlementaires aient votre dynamisme. J'ai failli quitter le navire en me disant « thème imposé, c'est compliqué, etc. » Mais deux arguments m'ont convaincue. Le premier, c'est tout simplement que je ne peux pas critiquer des personnalités politiques qui disent « oui, on va faire ci », mais qui ne donnent pas de moyens, typiquement « oui à l'avortement », mais qui ne mettent pas de thunes dans le planning familial. Et moi, je ne peux pas râler si je ne viens pas faire cette chronique. La seconde, c'est simplement qu'il y avait Nathalie Arthaud sur le plateau. Voilà, salut Nathalie, merci, je suis contente de te voir. Ah, chère Europe, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ? Quelles questions te poser à ce moment-là de ta vie où tu revois tes compagnes ou tes compagnons de route ? Ceux qui vont passer te voir une fois par semaine en courant à Strasbourg. Ces amours toxiques et ces amours porteurs d'espoir. Qu'apprendre de ta précédente rupture ? Déjà, s'il te plaît, chère Europe, ne te réveille pas avec n'importe qui au lendemain des élections parce qu'il a un beau sourire, ça ne marche pas. Et mine de rien, ce sera tes petits partenaires pour 5 ans. Et 5 ans, c'est long pour nous aussi, jeunes, qui cherchons tout simplement à entrevoir un avenir. Chère Europe, je voulais te demander si pour l'occasion, on ne pouvait pas avoir un petit tarif préférentiel, nous, les jeunes, comme des voix qui comptent double. Parce qu'il semblerait qu'on soit deux fois moins que les plus de 60 ans. Et je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'on est un peu plus concernés par l'avenir. Il s'agit juste de mesures compensatoires, comme on adore le faire d'ailleurs pour les politiques environnementales. Oh, un vieux qui profite glorieusement de sa retraite en croisière et deux jeunes en service civique pour ramasser le plastique sur les plages, comme c'est mignon. Alors je dis pas qu'on va mettre les vieux au service civique, mais si on pouvait donner à la jeunesse des possibilités d'agir plutôt que de compenser, ce serait mieux quand même. Chère Europe, quand est-ce qu'on pourra avoir l'impression que tu nous prends pas pour des imbéciles, tout simplement, comme cet eurodéputé qui parle avec fierté d'une culture du compromis à la française. Oui, alors non, justement, nous, on peut plus avoir cette culture-là. Trop de compromis tue le compromis. On n'est ni bon ni pas bon, du coup, on prend encore plus de Xanax, on ne sait plus sur quel pied danser, on fume encore plus de pétards, et après, vous trouvez que la jeunesse a l'air perdue. Mais on n'est pas perdu à la base, nous, Valérie. C'est juste tes compromis. Car non, Valérie, on n'accueille pas les migrants dans un centre pour décider en pas en 8 jours s'ils ont droit de vivre en sécurité. 8 jours, c'est pas un bon compromis, Valérie. Est-ce qu'on peut prendre en compte ce que c'est que d'avoir grandi avec l'Europe ? L'espoir que ça représente pour nous en partie comme garde-fou et l'inspiration de nos voisins. Parce que dans nos débats politiques, souvent, avec notre égotrip à la française, on dit... On va apporter notre aide à l'Europe. Mais non. Mais moi, j'ai envie de dire à l'Europe, à l'aide face à notre gouvernement, à l'aide pour accélérer des politiques environnementales, pour continuer de constituer ce garde-fou en matière de droits humains, pour nous inspirer sur ce qui est fait ailleurs, pour nous permettre une meilleure représentation politique, pour nous donner du courage dans les luttes, comme le disait notre chère Nathalie juste avant. Mais aussi, merci à l'Europe de faire en sorte qu'on parle anglais, because yes, I speak English thanks to Erasmus. Et même si les Français sont bons en anglais, autant qu'ils sont bons dans l'enseignement, soit les pires du classement à l'échelle européenne, j'ai vérifié ce matin, imaginez où on en serait sans ces échanges-là. Est-ce que, chère Europe, tu peux m'apporter des réponses comme quand est-ce que 50% de mes amis vont arrêter de dépenser 200 balles par mois chez des psys pour supporter l'incertitude et l'éco-anxiété ? Est-ce que, chère Europe, tu peux nous donner envie de rêver de l'avenir et de travailler joyeusement en sa faveur, car je te jure, on est motivé, c'est tout ce qu'on demande. Donc oui, chère Europe, est-ce que, s'il te plaît, tu peux ne pas te prendre une cuite la veille des élections ou acheter genre une boîte de citrate de bétaïne ou alors, je sais pas, prendre du LSD, un truc qui te fait aimer les humains et la nature, mais je sais pas, chère Europe, pense à nous.
Ouais. Merci Justine, j'espère que l'Europe t'a entendu de tout cœur. Et maintenant, on va passer au Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Pour le Zoom, on reçoit, enfin à vrai dire, ça sera directement enregistré, on va nous parler... excusez-moi, je me suis emmêlé dans mes papiers. On va nous parler, Radio Phoenix va nous parler de genre et des identités plurielles au travers d'un témoignage.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Identité Plurielle, le podcast de Radio Phoenix sur les questions liées au genre. Chaque vendredi, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont une expérience à partager, qu'elle soit liée à leur vie, leur travail ou leurs engagements. Et pour ce 7e épisode, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Christelle Cerisier-Philippe. Elle est membre de l'antenne de Deauville-Trouville de Soroptimiste, un réseau international engagé pour le droit des femmes.
Le Soroptimiste International est une ONG composée de 72 000 femmes engagées pour améliorer la vie des femmes et des filles dans le monde. Alors, le Soroptimiste International est bien sûr organisé en différentes fédérations hein, sur les différents continents et plus particulièrement en union dans chaque pays. Donc, on a l'Union nationale qui fait partie d'une fédération pour nous européenne. Donc, on a l'Union nationale française, la Fédération européenne, et puis on est rattaché au SI international, donc l'organisation mondiale. Donc comment ces femmes améliorent la vie des femmes et des filles? En fait, elles améliorent leur vie au travers de 5 domaines d'action, qui sont l'éducation, la santé, le leadership et l'autonomie, avec du mentorat, l'environnement, et la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Vous imaginez bien que dans le monde, la situation des femmes et des filles n'est pas la même, suivant qu'on se trouve en Afrique, dans un pays musulman ou catholique, et en Europe. Et même en Europe, on a beaucoup de disparités. Et même en France, si on prend juste la France, la situation à Mayotte, en Guyane, à Paris ou en Normandie, n'est pas la même. Donc généralement, ce qu'on appelait avant club, mais maintenant on les appelle des Soroptimistes internationales avec le nom de la ville, chaque club, on va dire, fait son propre diagnostic, suivant notre devise qui est « comprendre, défendre, entreprendre ». Donc en comprenant, elles font le diagnostic d'une situation qui leur semble intéressante à relever sur leur territoire. En fonction de ce diagnostic, elles se donnent des objectifs. Donc si cette problématique n'est pas connue, elles vont défendre cette problématique pour que politiquement les élus peut-être réagissent et les aident, ou elles vont tout simplement mettre d'elles-mêmes en place des manifestations pour récupérer des fonds et avec ces fonds organiser des actions qui sont vraiment dirigées vis-à-vis de ces problématiques. Si je prends l'exemple du club de Deauville-Trouville, depuis 10 ans, elles ont fait le constat qu'il y avait un problème de violence à l'égard des femmes sur le territoire, pour prendre que ce sujet-là. Personne n'en avait conscience, surtout que sur un territoire tel que Deauville, on ne peut pas imaginer qu'il y ait ce genre de problématique. On ne pouvait pas imaginer, sauf qu'à un moment donné, à force d'en parler, les femmes victimes de violences se sont révélées. Avec le CIDFF, on a pu mener ensemble des actions d'information, de relais. Vu les dispositions du territoire, on a tellement éveillé en 2019 les sensibilités politiques que finalement, la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury a abouti à un contrat local de lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles. Et voilà, ensuite un maillage s'est mis en place avec les services de l'ordre dans les écoles. On a pu mener nos actions de prévention, d'information. Et aujourd'hui, on va bien au-delà. Dans d'autres territoires, la situation n'en est pas là. Vous voyez, ça dépend un petit peu aussi de quel environnement, avec quelle motivation on se retrouve dans notre environnement.
L'histoire de Soroptimiste est riche, elle débute à la suite d'une mésaventure vécue par une chef d'entreprise américaine.
Alors, l'ONG, elle est née en France en 1921. Et si on remonte en 1924, en France, pardon, en 1921, une chef d'entreprise américaine avait été interpellée par le Rotary, à l'époque, en pensant que cette chef d'entreprise était un homme. Et donc, le Rotary venait en fait la recruter en tant qu'homme. Et le Rotary était surpris de tomber devant une femme chef d'entreprise à l'époque. Et cette chef d'entreprise, les a bien interrogés pour savoir comment ils fonctionnaient et comment était monté leur réseau. Et plutôt que d'intégrer le Rotary, de toute façon, elle n'aurait pas pu, vu qu'elle était une femme, elle a monté les Sœurs Optimistes aux États-Unis. Donc, un service club, finalement, au service des femmes. Et puis, en 1924, Suzanne Noël, qui est un petit peu notre fondatrice sur le continent européen, était une femme qui faisait des études de médecine sans pouvoir intégrer l'auditoire masculin qui était réservé aux hommes de médecins, puisque les femmes ne pouvaient pas faire d'études de médecine. Elle a présenté son concours, elle l'a réussi, et puis elle est devenue chirurgien esthétique, et elle a réparé les gueules cassées. Et cette femme a passé sa vie à déployer le sort optimiste en Europe, en Asie, au Japon. Enfin bref, elle a vraiment fait de ce mouvement un mouvement mondial.
Un mouvement mondial auquel Christelle Cerisier-Philippe prend donc part. Elle nous explique pourquoi elle s'y engage à travers son parcours personnel.
Cette question, vous me l'avez posée et je me suis dit, bon, c'est le hasard des circonstances. Et finalement, quand on réfléchit bien, ce hasard, c'est pas un hasard. Si on pense à sa vie, on a une part d'innée d'actifs, une part d'innée d'acquis en nous. Les chiens font pas des chats. J'avais ma famille paternelle qui était très engagée. Je m'en rendais pas compte, mais a posteriori, je m'en rends quand même bien compte. Et puis, j'ai eu un environnement très rempli d'amour et surtout qui était focalisé sur l'intelligence collective. Donc, autour de moi, y compris dans l'école primaire, le collège, le lycée, j'ai une formation belge puisque je suis d'origine belge, toutes les compétences psychosociales étaient bien travaillées. De l'âge de 6 ans et demi à 20 ans, j'ai fait partie d'un mouvement de jeunesse qui était les Scouts d'Europe, ou qui était mixte, où les filles étaient en minorité, et où bien sûr les garçons rêvaient de les exterminer de leur groupe très masculin, et où toute ma jeunesse, on a eu l'ambition de se mesurer aux garçons, et en tout cas d'être à leur égalité pour rester dans ces troupes de scouts qui n'étaient pas du tout dogmatiques, religieuses comme le sont les mouvements de jeunesse en France. Donc déjà, cette ambition d'être l'égal de l'homme faisait partie de moi. Et puis, quand j'ai dû me décider sur les études que j'allais faire, mon père m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces options que j'ai prises au lycée ?» Et quelle orientation tu vas prendre? Tous les choix que j'avais faits étaient des choix de métier un peu masculin, même très masculin. Et pour tout vous dire, vétérinaire pour les animaux tropicaux, les vétérinaires masculins m'ont très vite découragée de faire ce métier. Médecin légiste, très vite on m'a dit que ce n'était pas un métier de femme. Et puis criminologie, c'est ce que je voulais faire. Mon père, dont le meilleur ami était inspecteur de la PJ de Bruxelles, m'a fait tout un laïus sur les inconvénients du métier pour une femme. Finalement, j'ai fini avoir commencé mes études de criminologie, j'ai fini par faire des études d'infirmière puéricultrice, que je ne regrette pas au demeurant. Mais j'ai toujours été passionnée par les comportements humains. Et ma conviction était qu'on pouvait faire de belles choses, mener des beaux projets quand on pouvait partager nos compétences. Quand je suis arrivée sur le territoire en Normandie, toute ma famille habitait à 500 km de la région. Je me suis retrouvée avec des jeunes enfants, enfin enceinte, avec une petite fille de 2 ans et demi. J'ai voulu tout de suite travailler, bien sûr, et au cours de mes rencontres professionnelles, j'ai rencontré ma marraine, Sœur Optimiste, qui m'a invitée à un dîner. Ce qui m'a plu chez les Sœurs Optimistes, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas être de la même profession que quelqu'un d'autre. Donc j'ai dû attendre que ma marraine ne soit plus infirmière pour pouvoir intégrer le groupe. Elle avait refait une reconversion professionnelle et à ce moment-là, j'ai pu intégrer le groupe. Parce que l'idée chez les sœurs optimistes, c'est d'avoir différentes compétences pour mener des projets et des actions pour aider les femmes.
Et cette aide, le mouvement le résume par un slogan « Des femmes au service des femmes ».
Eh bien ça, c'était un peu la phrase d'une ancienne présidente nationale qu'on a finalement conservée longtemps parce que finalement nous ne sommes que des femmes, en tout cas engagées dans la vie professionnelle et active. Hein, donc nous ne sommes pas des femmes bénévoles à la retraite, nous sommes des femmes qui travaillons, qui avons des compétences et ces compétences, on les met au service des femmes.
En tout cas, les combats de sœurs optimistes portent souvent leurs fruits. Christelle Cerisier-Philippe nous en donne un exemple.
Au niveau onusien, on est vraiment une association qui est consultée de très près, hein, puisque dernièrement, dans le cadre du CIDO, la Convention d'extermination des discriminations à l'égard des femmes qui était signée par 187 pays dans le monde, examine tous les 4 ans chaque pays. Et cette année, la France a été examinée, par exemple. Et on a porté notre rapport au sein de ce comité. Comme nous sommes une ONG assez généraliste, on était très, très pertinente puisqu'on était force de proposition. Hein, vous savez qu'on a eu le Grenelle des violences, par exemple, en 2019. Depuis, 46 mesures sur les 54 recommandations qui avaient été faites en 2018 par le Grévio. On nous a consultés pour savoir si sur le terrain, c'était bien appliqué et si c'était vraiment efficace. Et donc, on a apporté notre rapport avec, bien sûr, beaucoup de choses positives, hein, parce que depuis 2019, beaucoup de choses ont changé, mais encore avec des freins. Le frein du patriarcat est assez présent dans notre pays et même si on veut changer les choses, on a encore une culture très patriarcale qui fait que les filles sont encore élevées comme des filles, malheureusement, et les garçons sont encore élevés comme des garçons.
Vous l'avez vu, le mouvement Sœurs Optimistes a encore de nombreux défis à relever pour plus d'égalité. Merci beaucoup à Christelle Cerisier-Philippe pour son témoignage. Ce podcast touche à sa fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à midi sur Radio Phoenix pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez réécouter celui-ci sur notre site phoenix.fm ou sur toutes les plateformes de streaming.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, Noah se questionne avec nous sur la création d'identité individuelle et collective.
Bonsoir à tous, ça y est les amis, le printemps est revenu. Les petits oiseaux qui chantent, les arbres qui fleurissent, les rayons du soleil qui transpercent les feuilles des arbres quand le vent effleure de sa caresse douce et sensuelle. Un peu finalement comme les vieux pervers avec les jupes des femmes dans le métro. Alors, pour aborder le sujet d'aujourd'hui, aussi léger que cette introduction, j'aimerais vous faire écouter un petit extrait d'une poète que j'aime beaucoup, très fine et dans sa pensée et dans son écriture. Je vais la citer. Ils sont dans nos campagnes. Fin de citation. Vous l'avez probablement compris, on va parler de la figure de l'étranger, ou pour certains, Bougnoul, Blacos, Albanais, Kosovar, Feuge et autres faces de citron. Devant ces appellations aussi horribles qu'actuelles, on a deux types de réactions. Première réaction, non mais en fait, t'as pas le droit de dire ça, moi je veux dire, dans la start-up que j'ai montée, on a un Hollandais et une Polonaise, donc au niveau inclusivité, ta gueule clitorine, s'il te plaît, merci, je vais vomir. Deuxième réaction, celle de Jean-Mi, oncle raciste, homophobe et complotiste à ses heures perdues. Elle est bougnou, et oui, en fait, il est bourré. Donc, souvent, on a l'impression que pour les Jean-Mi, autant que pour les tartes aux prunes, l'étranger, c'est celui qui ne vient pas de France, comme s'il ne pouvait rien avoir de français déjà en lui au départ, et même après des décennies passées dans le pays. Au-delà de la violence que ça inflige aux personnes issues de l'immigration, on ne peut que constater que ça ne reflète absolument pas du tout la réalité des mélanges culturels. Et donc ce mécanisme, il est tout à fait normal quand on regarde en général comment se construit une identité au sens large. Elle se fonde sur un système binaire du « il y a moi » en tant qu'individu indépendant, et puis il y a l'autre, cette chose qui peut être autant un humain, un animal qu'à un communiste, un nationaliste, un riche, un pauvre ou autre bouffeur de graines. Et cette manière de construire son identité, elle ne vient pas du tout de nulle part. Vous n'êtes pas sans savoir que notre civilisation occidentale moderne s'est construite en partie sur la civilisation romaine. Pour un Romain, il y a lui-même, c'est-à-dire celui qui est civilisé, éduqué au bon goût romain, et puis il y a les autres, littéralement le reste du monde connu. Vous imaginez quand même le boulard que ça demande. Et nous, eh ben on a hérité de ça. Et c'est ce que les Romains appelaient barbares, avant que le mot ne dérive en cette espèce de truc habillé en peau de bête à deux neurones, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler certains individus du métro parisien. Et donc c'est précisément cette vision que continuent d'entretenir certains de nos politiques auprès de la population. Il y a nous, les Français de France, qui mangent du fromage et du cochon, et puis il y a les étrangers, les barbares, qui ne peuvent pas être autre chose que des étrangers. Et pire encore pour eux, il est absolument inacceptable que ce qui compose le patrimoine français puisse en réalité ne pas être originaire de France. La culture de la vigne, née au Proche-Orient vers 6000 avant Jésus-Christ. La langue française, ça n'existe pas. C'est du latin auquel s'est rajouté en continu pendant 2000 ans des influences autant germaniques qu'arabes et j'en passe. Et donc c'est ce qui fait qu'on a tous une partie de l'autre en nous. Qu'ils soient juifs, arabes, noirs, blancs, nationalistes ou communistes, clitorines ou Jean-Mi, alors au lieu de se concentrer sur nos différences, regardons plutôt ce qui nous rassemble et ce qui nous unit. Parce que notre ennemi est souvent celui qui nous ressemble le plus. Merci beaucoup.
Eh bien, merci. Et c'est déjà la fin de la première émission des Mardis de l'Europe à la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais. On se quitte dans la joie et la bonne humeur, car enfin ma conseillère indemnisation France Travail m'a enfin répondu. Merci à nos invités Thierry Paul Valette, Nathalie Arthaud. Merci aux bénévoles avec nous ce soir: Agathe, Joséphine, Hugo, José-Louis, Justine et Noah, Jeanne et Payan Réal, et Louise et Lucas à la coordination. Tout de suite, la demi-heure, et on parle de quoi?
On va parler de concentration des médias et du pape, je crois. Ça va être
et
bien
du pape,
fasté.
Ça va être incroyable. Merci beaucoup, à la matinale, see you later. Et surtout, rock the vote for Europe!